Les passions de Camille avec Camille Chai.
Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ici Camille Chai. En tout cas, j'ai une chose à vous dire. Les deux invités d'aujourd'hui que je reçois, eux, sont en pleine forme. Il s'agit de Gilles Gauthier, un homme de 70 ans qui habite à Jonquière et qui vit avec la triplégie spastique. Il est aussi un ancien de l'Office des personnes handicapées du Québec. Et je reçois comme deuxième invité mon ami Maxime Pelletier, qui est né sans bras et qui est webmestre pour l'Association des amputés de guerre. Alors, restez avec nous parce que c'est tout de suite à Les passions de Camille. Monsieur Gilles Gauthier, bonjour.
Bonjour, madame.
Comment vous allez?
Ça va très bien, vous-même?
Oui, très bien, merci. Alors, monsieur Gauthier, vous êtes donc de Jonquière, comme je le disais il y a quelques secondes à peine, et vous avez un très beau 70 ans, si on peut dire ça comme ça.
Bien soigné, oui.
Voilà. Et donc, qui dit 70 ans, qui dit aussi une énorme expérience de vie, et on a la chance aujourd'hui d'en apprendre beaucoup plus sur vous, mais j'aimerais pour commencer que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est la triplégie spastique.
La triplégie spastique, c'est secondaire à une paralysie complète et qui fait que mes deux membres inférieurs et mon bras droit pour la tri et la triplégie, donc mes membres sont spastiques, ils ont une rigidité et ils font pas toujours ce que moi je veux qu'ils fassent.
Et ça, c'est est-ce que c'est depuis toujours que vous vivez avec cette condition?
Non, j'avais 10 ans lorsque la paralysie est arrivée, donc ça fait plus de 60 ans que je vis avec cette triplégie.
Et comment vous expliquez le fait que ce soit arrivé à vos 10 ans? Est-ce qu'il y a une explication?
L'explication, c'est un virus qui s'est logé au niveau de ma colonne cervicale, donc dans le cou, au niveau de la 4e et 5e vertèbre. Il y a eu une inflammation majeure qui a créé la paralysie complète, là, sur tout mon corps, des poumons en passant par... Il n'y avait plus rien qui fonctionnait, que mes yeux et mes oreilles.
Quand même, et pour, je veux dire, un jeune garçon de 10 ans, ça devait être... Comment vous l'avez vécu? J'imagine que c'est un choc, hein, en quelque sorte.
Quand tu as 10 ans, tu n'es pas toujours vraiment conscient de tout ce qui se passe. Comme dit l'expression, tu suis le bateau, et on te donne des traitements. J'ai été dans un poumon d'acier. J'avais des infirmières, physiothérapie, ergothérapie. Donc, tu suis le bateau, puis tu avances, tu récupères et tu apprends à vivre avec ta nouvelle condition. T'as pas vraiment le choix de vivre avec. Et tu trouves tout ce que tu es capable de faire à nouveau et tu oublies ce que tu faisais avant.
Mais ça se fait en combien de temps? Parce que vous me parlez de bateau. En combien de temps vous avez réappris à nager?
J'ai été 6 mois à l'hôpital, okay, avec la physiothérapie sur place. Et après ça, 3 ans en externe. Mais lorsque je suis sortie de l'hôpital, j'avais réappris à marcher avec une canne et une orthèse. Mm. Et au cours des ans, j'ai perdu l'orthèse et je marchais tout simplement avec une canne. Et dans ma vie, ça a été en 3 étapes. Cette étape-là, la sortie de l'hôpital, vers la 50aine, j'ai dû prendre un fauteuil roulant manuel pour me déplacer sur longue distance. Et suite à une double déchirure de la coiffe de l'épaule gauche, qui est ma main fonctionnelle, et une capsulette, on m'a recommandé d'oublier la canne et le fauteuil roulant manuel, mais de passer en fauteuil roulant motorisé.
Et ça, est-ce que la déchirure de votre épaule, est-ce que c'est dû à une surutilisation?
Absolument, une surutilisation, et aussi, il explique la chose par la scoliose que ma paralysie a causé. Mon épaule est trop vers l'avant. Et comme j'ai de la surutilisation, parce que j'ai toujours été très actif, autant dans le sport en fauteuil roulant que dans le bricolage à la maison, je ne me suis jamais arrêté.
Ben, c'est ça la clé, hein, M. Gauthier.
Oui, c'est ça. Il faut bouger, sinon on perd ce qu'on a acquis.
Eh oui. Et comment ça s'est passé pour vous à l'école, avec les jeunes, quand on est différent? Et là, pour vous, c'était quand même très voyant pour vos camarades de classe. Est-ce que vous avez vécu une belle expérience, une belle enfance à l'école?
Une belle enfance tant à l'école que dans les jeux chez l'extérieur pendant les vacances. C'est une chose, ça s'est réglé à peu près dans l'espace de 15 minutes. Oh. Quand je suis sorti de l'hôpital, mes amis m'attendaient. Et il y avait neigé là, depuis un certain temps, on approchait Noël. Fait que là, ils m'ont dit, on va marcher. Fait que j'ai marché peut-être là, 50 pieds avec de la neige, et là, je suis tombé. Mes amis ont parti à rire parce que, semble-t-il, quand je tombais, c'était spectaculaire de la façon que ça se passait. Et là, moi, j'étais à terre, puis je riais, puis les autres aussi. Là, ils m'ont relevé, puis ils m'ont lâché. Mais j'ai retombé.
Oh.
Fait que là, ils ont parti à rire encore. Et à partir de là, c'était fini. Ils me traînaient partout, puis quand il arrivait quelque chose, ben c'était drôle. Puis à l'école, c'était la même chose. C'était des amis qui étaient dans mon entourage chez moi. Quand j'arrivais à l'école, ils étaient avec moi. Puis ils m'aidaient s'il fallait que je mette mes bottes d'hiver. Ils ont toujours été là pour moi. Et jamais on m'a fait remarquer que j'avais une paralysie. Non, ils faisaient avec et de la façon que j'étais.
Mais c'est incroyable parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance de vivre ce ben ouais, on parle du regard des autres là, des relations avec les camarades quand on est jeune. Beaucoup ne le vivent pas de la façon dont vous venez de nous le raconter. C'est merveilleux. J'ai envie de dire, c'est certainement une part d'eux-mêmes dans leur l'acceptation de votre handicap, mais dans votre attitude aussi, vous deviez vous leur donner quelque chose qui leur donnait envie de passer à autre chose et de vous prendre tel que vous étiez.
Absolument, vous avez, c'est exactement ça. Eux, ils étaient contents de me revoir. Et moi, j'étais contente de les voir. Et effectivement, mon attitude faisait en sorte, je me plaignais pas. Si je tombais, je disais pas « maudite canne, maudite canne ». Non, non, j'ai tombé, on riait, on jouait au baseball, moi je frappais la balle, mon chum courait. Et s'il n'arrivait pas au premier but assez vite, je l'engueulais qu'il n'avait pas couru assez vite.
C'est excellent. C'est tellement beau, ces souvenirs que vous nous partagez. J'aime bien, en fait, votre image de... Quand vous tombiez, la réaction, c'était d'en rigoler. C'est une très belle façon de... Ben oui, d'utiliser l'humour, mais aussi de pas trop se prendre au sérieux, au final.
Effectivement, là. Je me souviens d'une fois, j'avais peinturé mes ailes de vélo et... j'avais mal pris une courbe là, dans le coin où je demeurais, puis il y avait du foin assez long. Et là, le vélo, il descendait un petit peu, puis moi, je criais « mes ailes, mes ailes, mes ailes ». Et mes amis étaient dehors, ils étaient morts de rire parce que les autres, ils voyaient juste ma tête. Ils voyaient pas mon vélo. Et quand ils sont venus me chercher, là, il y en a qui pleuraient. Les grosses larmes, tellement ils riaient. Fait que vous voyez, ça a toujours été comme ça. Et même quand j'étais adulte, j'ai toujours eu cette attitude-là de ne pas me plaindre et de faire avec ce que j'avais. Et les gens m'acceptaient assez facilement quand ils voyaient que moi, j'étais pas triste, j'étais pas mal parce que j'étais dans cet état-là, mais plutôt je vivais comme ça.
Mais je pense que toutes les personnes qui vous ont fréquenté et qui vous fréquentent encore aujourd'hui d'ailleurs ont eu beaucoup de chance de vous avoir parce que le message que vous lancez dans l'acceptation de soi malgré l'adversité, malgré le handicap, malgré tout, hein, on peut vivre énormément de choses dans une vie, c'est un message de force que vous transmettez à toutes ces personnes qui sont autour de vous. On va en reparler d'ailleurs un peu plus tard dans l'entrevue parce que vous êtes extrêmement engagé envers votre communauté. Et j'ai envie d'aller voir un petit peu l'envers de la médaille. Quelles sont, en fait, les plus grandes difficultés que vous pouvez vivre à cause de votre handicap?
Ben, les grandes difficultés, c'est malheureusement, présentement, j'ai un fauteuil roulant motorisé. Et lui, là, il n'aime pas l'hiver encore moins que moi. On respire tout le temps avec ça. Ça, malheureusement, ça me limite là, pour mes activités que je faisais. Des fois, il faut que j'annule un rendez-vous parce que là, il y a neigé. Puis les gens qui viennent déneiger mon entrée, ben ils sont pas obligés de venir à l'heure que moi je veux. Ils viennent selon les services qu'ils donnent. Puis des fois, ben j'ai dû annuler des entrevues. Ça m'a dérangé beaucoup. Ça me dérange beaucoup. Mais les difficultés avant ça, parce que c'est moi qui pelletais avant et j'étais très autonome, je rencontrais pas vraiment de difficultés et j'ai rarement rencontré quelqu'un qui, comme il acceptait pas ce que j'étais ou la façon que j'étais, aurait pu se moquer de moi. Des fois, les gens se moquent, non pas par méchanceté, c'est parce qu'ils savent pas quoi faire avec votre condition. Ils savent pas, ils sont pas capables de venir vous voir et vous demander qu'est-ce que vous avez vous vécu. Les gens sont mal à l'aise de ça parfois.
En fait, vous le dites, c'est les gens n'osent pas venir nous poser les questions qui leur viennent en tête quand ils nous voient.
Oui. Et souvent, ce que je dis aux gens, si vous voulez aider une personne handicapée, demandez-lui s'il a besoin d'aide. Et s'il dit « oui, j'ai besoin d'aide », demandez-lui « comment je peux t'aider ?» et non « faire à sa place ». Lorsque les gens veulent faire à notre place, ils nous renvoient une image de nous qu'on est incapable.
Effectivement.
Alors qu'on est capable de faire beaucoup, mais on fait autrement.
Exactement. Ben, j'ai envie de dire, c'est une règle d'or et un mot d'or aussi que vous nous transmettez à l'instant. On va passer à la pause, une petite pause musicale qui est votre choix. Donc, on va le découvrir à l'instant et on en reparle tout de suite après.
OK.
Blagues en lisant le journal. Et bien que d'apparence assez loin d'exemplaires, il n'épargne personne de ses commentaires. Voilé sous le couvert de traits humoristiques, se cachent les ulcères de l'angoisse chronique. Oh, Jean est un homme sans travail qui boucle les mois en vendant au détail de beaux petits sachets ou bien des comprimés contenant l'intégrale de la pharmacopée. Certains soirs, il se demande à quoi ça rime. Et certains soirs, on le voit seul au fond du gym. Alors, il pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Alors, il pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Anne est une jolie maman qui soigne son corps et chérit ses enfants. Personne ne connaît l'étendue de son drame, ni les pensées qui rongent son petit cœur de femme. Son homme a pris la poudre d'escampette avec une gamine de 10 ans, sa cadette. Oh, Anne voudrait le faire payer, mais elle est incapable de toute méchanceté. Il est sans le sou et n'a rien à son nom, et il ne mérite quand même pas la prison. Certains soirs, elle se demande à quoi ça rime. Et certains soirs, on la voit seule au fond du gym. Alors, elle pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Alors, elle pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Je suis un chanteur populaire qui, au dire de plusieurs, a vraiment tout pour plaire. Derrière ma façade de stoïque belâtre, je suis aussi solide qu'une statue de plâtre. Quand la nuit tombe et que mon esprit vagabonde, j'ai tenté si souvent peur de la fin du monde. Oh, oh. Je suis un chanteur populaire et je fais ce que je peux pour ne pas être amer. Lorsqu'il me faut passer par-dessus mes principes pour qu'on joue mes chansons ou mes vidéoclips. Mais certains soirs, je me demande à quoi ça rime. Et certains soirs, on me voit seul au fond du gym. Alors je pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Alors je pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. On a tous sur le cœur un altar. Et sur les épaules, le poids de l'univers. Condamné à fournir constamment un effort pour ne pas devenir notre propre poids mort. Mais certains soirs, on se demande à quoi ça rime. Et certains soirs, on est tout seul au fond du gym. Alors on pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Alors on pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte.
C'était le chanteur Jonathan Pinchot et sa chanson « Pousse, pousse ». Et Monsieur Gilles Gauthier, pourquoi vous avez choisi cette chanson?
Ben, dans la chanson « Je pousse, pousse, pousse », moi, ce n'est pas pour repousser la honte, mais bien un souvenir de réadaptation. Lorsque j'étais en réadaptation, la physiothérapeute disait ça continuellement. « Pousser, pousser, pousser et relâcher ». Après 3-4 ans, ça reste dans ta tête et sans que tu t'en rendes compte, ça devient ton mode de vie. Et c'est peut-être ce mode de vie-là qui a fait que j'ai pu tout faire ce que j'ai fait dans ma vie parce que, oui, j'ai toujours poussé, poussé et pas arrêté. Quand je bricolais, ma conjointe me disait « OK, ça fait, c'est assez, arrête, tu vas te faire mourir. » Tu sais, j'ai toujours eu cette attitude-là, de pousser, pousser, mais ça m'a permis d'avoir une très belle vie qui a été très agréable malgré ma condition.
Eh bien oui, mais c'est encore une fois, c'est la plus belle et la meilleure attitude qu'on peut choisir d'avoir, parce que vous disiez tout à l'heure, hein, bon, vous n'aviez pas le choix nécessairement de vivre avec, mais en fait, c'est parce que si vous ne le choisissiez pas, bon, il n'y a plus grand-chose qui se passe après. Donc, vous êtes tellement un grand et un bon vivant que oui, poussez, poussez. Moi, j'aime bien. Je vais le garder en tête aussi. On trouve tous, en fait, nos petites phrases ou nos façons de nous motiver dans des moments où on en a plus besoin. Donc, on enregistre cette formule grâce à votre choix de cette chanson. Et on va parler justement de tout ce que vous avez fait dans votre vie. Si on commence par vos passions, donc vous nous parlez de bricolage, de rénovation et de construction. D'ailleurs, c'est vous qui avez rénové votre propre sous-sol.
Oui, j'ai fait, soyons honnêtes, là, j'ai fait au moins 70 % des travaux. Wow. Les travaux qui étaient trop lourds, comme poser le gypse, là, à ce moment-là, je me suis fait aider. Mais la structure, passer l'électricité, installer l'électricité, la plomberie, c'est moi là qui ai fait ça. La peinture également. Mm. Donc, oui, et j'adore bricoler. J'ai construit ma remise là en 74 et elle est toujours debout en arrière de moi là, de la maison.
Magnifique. Et en plus de ça, dans vos activités, vous aviez donc été un grand sportif?
Ben, un grand sportif, c'est un grand mot, mais j'ai fait du sport, j'ai fait du basket en fauteuil roulant, du rugby en fauteuil roulant. Ça, j'ai adoré parce que on avait le droit de, comme on dit, se rentrer dedans.
sinon, ce serait un peu plate, hein, si c'était pas permis.
Ouais, mais j'ai pas l'esprit de compétition. Je suis pas une personne qui fait le sport pour gagner. Pour le social.
Intéressant.
J'ai fait du sport peut-être là, 8-10 ans, là, ben, je me souviens pas les fois ou le nombre de fois que notre équipe a pu gagner une partie. Pour moi, ça faisait pas partie du jeu. C'était vraiment du jeu. C'est pour ça que je faisais le sport.
Pour le plaisir, puis une autre chose que vous faisiez aussi certainement pour le social, c'était la pêche.
Oui, je faisais la pêche à la mouche. Et ça, j'adorais ça. Puis j'avais un ami qui demeurait en avant de chez moi, là, puis je suis allé à la pêche, là, dans des pourvoiries. J'aimais bien ça et c'était encore une fois d'être dans la nature.
Oui, carrément.
C'est le quota ou la quantité de poissons que tu dois avoir, c'est, en tout cas pour la truite, c'est 20 truites en ta possession.
D'accord.
Mais moi, là, j'en avais 5. Bon, ben, il y en a 5 qui ont mordu, puis on a eu du plaisir, on était dans le bois, on a rigolé dans la chaloupe, et c'était correct.
Des beaux souvenirs, encore une fois.
Oui.
Et si on retrace un peu, à la base, vous avez un DEC en administration. Et d'ailleurs, votre premier emploi, tout de suite après vos études, ça a été de travailler dans un restaurant.
Oui, j'étais technicien en administration. Je faisais tout le cycle comptable, si vous voulez. Et les achats, la rencontre du personnel, faire des entrevues avec les gens qui venaient déposer leur curriculum vitae ou qui venaient nous voir, qui voulaient travailler. Je faisais ça. C'était bien agréable parce que c'est un milieu vraiment particulier, la restauration. Et j'ai rencontré des gens merveilleux, des gens qui encore, pour une fraction de seconde, c'est quoi lui, puis il y a bien une bizarre d'allure. Mais après quelques secondes, on échangeait quelques mots et oups, ça partait, puis c'était... plus des conversations vraiment conviviales.
Là. Oui, la glace était brisée.
Exact.
Mais je pense que vous n'avez pas de difficulté, vous, à briser la glace.
Non, pas vraiment.
Et d'ailleurs, je veux dire, vous avez un parcours professionnel qui est allé beaucoup plus loin que ça. Vous avez travaillé pendant 20 ans à l'Office des personnes handicapées à Chicoutimi.
Exact. On appelait ça technicien à l'aide matérielle. C'est que c'était moi qui avais... qui utilisait les 9 programmes que l'Office avait pour aider les personnes handicapées dans leur milieu, soit pour améliorer leur autonomie ou pour maintenir leur autonomie. Et les 9 programmes là, me permettaient d'aider ces gens-là. J'ai fait ça pendant 20 ans. Et aussi, vers la fin, on avait ce qu'on appelait le contrat d'intégration au travail pour les personnes handicapées qui voulaient faire des fois une première expérience ou qui avait un peu d'expérience, donc le pourcentage d'aide avec avec l'employeur était moindre. Mm-hmm. Ça, c'est plaisant, puis c'était satisfaisant, parce que tu permettais à des gens de prendre le milieu du travail, puis on sait, quand on travaille, on augmente notre autonomie, tant par les contacts et par le travail qu'on fait, mais aussi financièrement.
Et oui, ça doit faire toute une différence. Puis même pour poursuivre sur cette lancée, vous êtes aujourd'hui patient ressource pour le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Exactement.
En quoi ça consiste?
Un patient ressource, c'est d'abord un patient partenaire qui a souvent une maladie chronique ou une condition chronique et il est partenaire de ses soins. C'est la personne qui ne fera pas juste prendre la pilule que le médecin ou l'infirmière lui propose, mais bien de poser des questions, de s'informer, d'aller plus loin que juste ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui recommande, et il veut comprendre qu'est-ce qu'on lui propose. Et après un certain temps, il a acquis une expertise, et là, le bureau du patient partenaire du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean peut le recruter pour devenir patient ressource. Le patient ressource, lui, il va siéger sur un comité. Il va travailler avec une équipe et il va apporter son expérience comme patient pour discuter avec les professionnels. Lorsqu'il y a une proposition, ben il peut dire ouais, ça c'est intéressant. Par contre, la façon que vous le faites, moi ça me plaît pas bien. Je suis mal à l'aise. Là à ce moment-là, les gens, ça va nécessiter une discussion. Et quand tu es patient ressource, tu es là pour co-construire avec les équipes, avec les comités, et non pour revendiquer. c'est pas la place pour mettre le point sur la table, mais bien pour échanger et bien faire connaître comment tu vis ce qui est proposé.
Donc, encore une fois, l'attitude et les mots qu'on choisit, la façon de le dire, c'est ce qui va faire toute la différence pour le développement et la suite pour ces personnes-là.
Exactement. Et le patient ressource m'a amené à devenir patient coach.
Ah, d'accord. Donc, il y a des échelons à gravir, en quelque sorte.
Exactement. Le patient coach, il va supporter les patients ressources qui sont sur les différents comités. Et parfois, ils sont mal à l'aise ou il y a quelque chose qui se passe. Puis ils veulent pas en discuter avec l'équipe. Mm-hmm. Fait que là, ils peuvent nous appeler. Et on voit là qu'est-ce qui se passe exactement. Et si je peux aider la personne, des fois, c'est son manque d'attitude à intervenir, mm-hmm. et mal à l'aise. Ou si c'est, je vois que c'est l'équipe qui a peut-être là une problématique, ben là je vais le référer au bureau du patient partenaire du CIUS.
Mais tout ça, c'est toujours dans un but d'aller vers l'autonomie, parce que vous le dites, il y a une différence. En fait, il y a deux types d'accessibilité. Il y a une qui apporte de l'autonomie, mais l'autre accessibilité peut amener malheureusement une dépendance. Et c'est là aussi où vous entrez en jeu.
Effectivement, là, moi, ce que je peux dire aux gens, c'est pas parce que vous voyez une rampe d'accès que c'est accessible. Oui, vous pouvez l'utiliser, mais vous arrivez devant la porte et la porte ne ouvre pas. Vous allez en dedans, réussissez à rentrer en dedans, mais les toilettes ne sont pas accessibles. Donc, moi, je suis sur un comité qu'on appelle le comité d'aménagement du Centre de réadaptation Le Parcours à Jonquière. Et le comité, c'est un comité qui est là pour recevoir des demandes pour des gens qui voudraient faire de l'accessibilité à leur clinique, à leur pharmacie, à leur immeuble. Ben, on peut aller sur place, évaluer la situation et faire des recommandations pour leur dire comment faire l'accessibilité la plus efficace.
Eh oui, parce qu'autrement dit, il y a une belle avancée, mais il reste beaucoup de choses à faire. Mais une chance qu'on vous a, M. Gauthier, une chance que toutes ces personnes vous ont aussi près d'elles. Merci infiniment pour cette belle entrevue. Et j'ai envie de vous lever mon chapeau. Je vous lève mon chapeau, M. Gauthier.
Ah, oh, ben vous êtes gentil.
Merci beaucoup et au plaisir.
Plaisir, à la prochaine.
Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Maxime Pelletier. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, Camille Chaille toujours présente et encore une fois, c'est encore avec le sourire aux lèvres que je reçois mon deuxième invité qui est mon ami et c'est Maxime Pelletier. Allô Maxime.
Bonjour Camille, comment ça va?
Très bien et toi?
Très bien, merci.
Alors Maxime, tu as 36 ans.
Oui.
Tu habites à Montréal.
Mm-hmm.
Et on se connaît par l'entremise, encore une fois, de l'Association des amputés de guerre. Alors toi, tu es administrateur réseau et webmestre pour l'association.
Exactement. Et ça fait effectivement très longtemps qu'on se connaît. Je me souviens même pas, en fait, de l'année à laquelle on s'est connus, tellement que ça fait longtemps.
Moi non plus, donc c'est pour dire.
Effectivement. Et oui, on s'est connus par l'entremise de l'Association des amputés de guerre, pour laquelle je travaille là, dans la division des services informatiques en tant qu'administrateur réseau et que webmestre.
Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de ton handicap et de ta malformation?
Bien entendu, pour essayer de situer un peu les
auditeurs. Oui.
En fait, c'est que j'ai une amputation congénitale, donc c'est à la naissance, au niveau des deux bras et un petit peu en haut des coudes. Excusez-moi la mesure impériale, là, mais on pourrait dire environ 4 ou 5 pouces en haut des coudes. Mes bras arrêtent à ce niveau-là. Et j'ai été quand même chanceux, par exemple, parce que sur chaque bras, j'ai un doigt. Donc, j'ai un doigt de chaque côté, ce qui me permet de faire à peu près tout ce que j'ai besoin, dont taper à l'ordinateur. Apparemment, c'est important pour travailler en informatique.
Ben, tiens! Mais une chose, quand on dit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, hein, ou le hasard fait bien les choses, est-ce que tu es d'accord avec ça, toi?
Oh, à absolument. Et si on parle comment j'ai été chanceux de pouvoir les avoir, ces doigts-là, quand je suis né, quand j'étais jeune, il y a un médecin qui avait suggéré à mes parents de me les faire retirer pour faciliter l'appareillage. Mmh. Et mes parents ont eu le bon réflexe d'aller chercher un deuxième avis. Et le deuxième médecin leur a dit, faites-lui jamais ça parce qu'il va s'en servir toute sa vie de ses doigts, effectivement. Ça a été le cas. Donc, le hasard fait bien les choses et parfois, il y a des gens qui veulent se mettre en travers du hasard. Sans quand même finir par bien virer, j'ai quand même réussi à garder le peu que j'avais.
Une chance. Puis d'ailleurs, pour que les gens, ben, tu dis que tu fais beaucoup de choses avec ces deux doigts, mais entre autres, tu me disais aussi, tu tiens ton café même.
Oui. Si je prends une tasse, j'ai mon doigt qui va s'entrer dans le coin de ma tasse et c'est grâce à ça que je suis capable de prendre mon café. Donc, juste pour ça, ça valait la peine de les garder.
Ben oui, moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai envie de savoir quel type d'élève tu étais quand tu étais plus jeune.
J'étais un élève qui réussissait bien avec peu d'efforts, je dois le dire. Donc, c'était quand même assez facile pour moi. Mais le problème que ça causait, c'est que je suis assez volubile. Fait que quand je prenais pas le temps d'apprendre, j'essayais de parler avec quelqu'un à la place. Puis on m'a fait comprendre quand j'étais jeune que c'était pas gentil de déranger, de distraire les autres.
Eh oui.
C'était pas une bonne chose. Mais c'était ce genre d'élève-là, un petit peu très taquin, il faut le dire. Très, très, très taquin. Tous mes professeurs ont subi les foudres de « Levez votre main si vous avez une question, je fais quoi, moi, monsieur, madame? »
Oh, les fois, celle-là.
Oh, oui. Et j'ai toujours... Même au cégep, je ne pouvais pas m'empêcher de faire la farce. Même au cégep, je ne pouvais pas.
Ah oui, puis ça ne m'étonne pas encore. Je veux dire, tu restes le même, hein? Un clown un jour, clown toujours.
Voilà, c'est. C'est quoi? Je pense que je vais mettre ça dans mes phrases. Clown un jour, clown toujours.
Mais donc, tu étais certainement le genre d'élève qu'on finit par mettre au fond de la classe pour qu'il arrête de déranger ses camarades.
Oui, c'est ça. À un moment donné, il y a une professeure qui a compris que me mettre sur le bord de la fenêtre, ça faisait très bien parce que je pouvais regarder dehors, mais je n'allais pas déranger personne au moins.
Mais avec toute la... Parce que, je veux dire, même juste à t'entendre, tu as clairement une assurance et une confiance en toi. Est-ce que je me trompe?
Je dirais que oui, et parce que t'as comme pas le choix lorsque t'es dans une situation comme la mienne, à un moment donné, d'avoir confiance en tes habiletés puis en tes capacités, mm-hmm. parce que l'environnement dans lequel tu vas évoluer sera un défi pour toi continuellement, et à un moment donné, tu dois savoir que peu importe le défi, je vais être capable de le surmonter, j'ai pas le choix.
Oui.
C'est une question de nécessité rendue là, donc oui, j'ai une certaine assurance. Pas parce que je me suis jamais, j'ai jamais tombé, j'ai jamais trébuché, mais toujours parce que je me suis relevé à chaque fois, puis j'ai appris à chaque fois. Mais j'ai pas le choix, c'est une question de survie.
Totalement. Mais d'ailleurs, justement, tu parles de survie. Est-ce que, comme beaucoup, ça t'est arrivé d'avoir des accrochages avec des élèves?
Ça m'est arrivé, mais très, très peu.
Okay.
Faut dire que lorsqu'on est né avec, pardonnez-moi l'expression, mais une grande gueule comme la mienne, ça désamorce beaucoup de situations. Parce qu'un conflit qui escalade, d'habitude, ça commence avec des mots.
Mm-hmm.
Dans mon cas, ça finissait souvent aussi avec des mots parce que, justement, cette attitude-là fait aussi, à un moment donné, que, écoute, si tu veux qu'on ait un conflit, on va en avoir un.
Mm-hmm.
Si tu veux pas en avoir un, on n'en aura pas. Donc, quand j'étais jeune dans la cour d'école, oui, j'en ai eu. Je me souviens de deux exemples. Un, quand j'étais plus vieux, mais le plus parlant, c'est quand j'étais jeune, et là, je vais m'excuser à ceux qui ont la même couleur de cheveux, mais il y avait un petit garçon, à un moment donné, qui, lui, on a 6 ans, là, on est vraiment on est haut comme 3 pommes, et il vient me voir en me disant « Ah, t'as pas de bras. » Le garçon, il est roux. Moi, je le regarde, je fais « Ah, toi, t'es roux. » Bon. Il s'est mis à pleurer. Mais bon, c'était pas gentil de ma part, mais fallait bien que je réponde. Donc, à partir de ce moment-là, lui, il a fait comme « OK, lui, je peux pas l'écœurer avec ça. » Non, c'est parce que quand même, quand tu me disais « Oh, j'ai pas de bras, j'en suis conscient. »
C'est ça.
Si tu veux te servir de ça contre moi, bonne chance. C'est comme dire que le ciel est bleu ou que j'ai des joues. C'est la même chose.
Mais donc, pour toi, c'est un peu une façon de dire « Bon, j'ai peut-être pas de points, mais j'ai de la répartie. »
C'est ça, exactement. Donc, c'est de dire « C'est pas parce que... » Ce qu'il me manque, ça fait pas juste... C'est pas juste ça que je suis. Je suis aussi quelqu'un qui a de la répartie et qui est capable, si tu veux, d'essayer de me coincer. Je vais être capable de m'en sortir avec cette répartie-là. J'ai peut-être pas de bras, mais j'ai eu un méchant bon talent pour ça, justement, pour développer le côté répartie, côté volubile. Ça fait partie des outils que j'ai eu à développer.
Tu les as. Mais puis d'ailleurs, dans ton adolescence, il y a une phrase que ton père t'a dite. Je veux absolument que tu nous en parles parce que j'ai l'impression que... Je sais pas si c'est de ton père que tu tiens justement encore une fois, cet aplomb, j'ai envie de dire. Raconte-nous ça.
En fait, mon père est un homme de peu de mots. Il a le mot juste, par exemple. Mm. Fait que lui, contrairement à moi, il en dit beaucoup, mais lui, il en dit très peu, mais il va dire le bon. Quand j'étais adolescent, comme beaucoup d'adolescents, j'étais pas très motivé à faire grand-chose. On va être franc, là. Je prenais la vie plutôt de façon relaxe. J'avais pas encore compris que la vie, tu devais travailler. Quand on dit, quand j'étais étudiant, que je réussissais bien à l'école malgré tout, j'étais pas habitué à ça. Et à un moment donné, mon père, à me voir faire pas grand-chose, puis de faire comme belle, à un moment donné, ça te prend un avenir, mon grand. Mon père connaissait aussi que Max, il faut que tu lui parles de façon assez directe si tu veux qu'il comprenne quelque chose. Tu parles pas en demi-phrase, tu parles pas en alexandrin, tu lui dis tout de pointe, excusez l'anglicisme, quelles sont les choses. Et mon père, il m'est arrivé avec écoute, mon grand, à un moment donné, il va falloir que tu comprennes que tu pourras pas flipper des boulettes dans un restaurant. Il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu aies des études, parce qu'avec le handicap que tu as, tu peux pas faire ce genre de travail manuel-là. La seule façon de pas avoir de travail manuel, c'est d'aller étudier, mon homme. Ça a été, et une fois, j'ai un de mes amis qui m'a dit, c'est une des phrases les plus dures, mais les plus pleines d'amour que j'ai entendues, et c'est effectivement ça.
Ben oui.
Dur, oui et non. Je veux dire, à quelque part, on savait de quoi qu'on parlait les deux. Mais j'avais eu besoin, à l'âge de 16 ans, à un moment donné, de me refaire mettre les yeux en face des trous et de me dire, écoute, ta condition, il va falloir que tu travailles avec. Là. Et si tu veux avoir la vie que tu mérites d'avoir et que tu peux obtenir, il va falloir que tu fasses les efforts.
Wow,
donc,
c'est assez direct.
C'est là-dedans qu'il y a de la beauté. Assez direct, mais en même temps, il y a tellement de beauté là-dedans. Et c'était juste la réalité. Et j'avais besoin d'entendre ces mots-là pour faire comme, OK, c'est vrai, j'ai un avenir et je dois le prendre en main sur mes fils d'expression.
Ben oui, complètement. Et donc, le fait que tu sois webmestre aujourd'hui pour l'Association des amputés de guerre, est-ce que c'est une passion et une attirance que tu avais pour ce métier depuis toujours?
Ah, depuis toujours. Et, écoute, avec l'association, j'ai eu un ordinateur en 1990, si je m'en souviens bien, j'avais 5 ans. Donc, si on considère, ça fait 31 ans que je joue dans les ordinateurs. On s'entend que c'est sûr que l'intérêt est venu de là.
Oui.
Et quand il est venu, on m'a donné un choix de carrière, ça s'est comme imposé naturellement. Mm-hmm. J'avais une facilité, j'avais un intérêt, et donc je me suis dirigé vers ça. Et 16 ans plus tard, c'est encore mon métier. Et j'en apprends encore à tous les jours et j'en suis encore passionné.
C'est magnifique parce que ça, là, il faut le dire, hein, le fait que tu aies eu un ordinateur à l'âge de 5 ans grâce à l'Association des amputés de guerre, c'est grâce au programme Envol.
Et effectivement, c'est grâce au programme Envol qui faut se remettre à l'époque parce que, bon, c'est sûr qu'en 2021, avoir un ordinateur à la maison, ce n'est plus nécessairement la même chose.
En
91, avoir ça chez vous, c'est pas tout le monde qui avait ça.
Non.
Et pour une personne comme moi, l'association avait été assez visionnaire en se disant, écoute, quelqu'un qui naît sans ses deux bras, un peu comme mon père se disait, ne pourra pas faire de travail manuel, qu'est-ce qui va lui rester?
Mm-hmm.
Si on lui donne la facilité avec l'informatique, si on lui donne cette chose-là qui était innovante à l'époque, ça va nécessairement faciliter le travail dans les études,
oui.
Ça va faciliter l'acquisition de connaissances. Dans mon cas, c'est juste une belle ironie que ça m'a permis de m'intéresser à l'informatique. Mais il y a plein de jeunes qui en ont eu des ordinateurs et qui sont pas tous virés informaticiens.
Non, voilà.
Mais ça a tous été un élément égalisateur dans leur parcours, par exemple.
Oh, mais pour toi, c'est un merveilleux addon. Mais oui.
Ah oui, pour moi, ça a été une révélation. Je peux le dire sans aucune gêne, c'est ce qui a changé ma vie. La journée où on a pensé à moi pour me donner ça, et que ça a créé la personne que je suis aujourd'hui.
Complètement. Mais alors concrètement, sachant que tu as deux doigts, est-ce que tu dois utiliser des outils pour te faciliter l'usage avec l'ordinateur ou tu fais tout seulement avec tes deux doigts?
Je fais tout avec mes deux doigts, à l'exception d'une chose qui peut peut-être surprendre certains auditeurs, mais ma souris est par terre et je prends mon pied pour la souris.
Oh.
Mon pied droit pour la souris. Donc, j'ai les deux bras sur le clavier et la souris sur le pied.
Et c'est là qu'on y vient justement, à quel point quand on n'a pas de bras, les pieds sont un peu comme tes deux mains au final.
Exactement, c'est comme mes deux mains. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y en a un avec lequel je suis beaucoup plus habile que l'autre parce que je l'ai plus utilisé. Mais oui, mes pieds sont quand même, c'est une paire de mains plus loin qu'une paire de mains normale.
Exact.
La même chose. Là.
Donc tu es droitier du pied droit?
Oui, je suis droitier du... Oui, on peut dire ça, je suis droitier du pied. Mais on ne le dira pas en anglais parce que là, right-handed, ça ne marche pas. Là. Mais oui, je suis droitier du pied. Et en réalité, je suis droitier pour l'écriture avec mon bras, parce que j'écris pas avec mes pieds, j'écris avec mon bras. Mm-hmm. Mais pour toutes les tâches du quotidien, boire mon café, tout ça, je travaille de la gauche. Donc, je suis gaucher, droitier avec le pied. Je suis un peu mêlé, je suis un peu... je suis un modèle unique. Hein.
Oui, mais c'est ce qui fait la beauté, Maxime.
C'est charmant, merci. C'est gentil.
Oh, je te propose qu'on fasse une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Très bien.
With you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stemmed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing.
C'était The Sound of Silence, interprété par Disturbed. Maxime, pourquoi tu as choisi cette chanson?
Parce que, je suis un amateur de musique qui brasse.
Oui, c'est-à-dire?
Je suis un amateur de metal, heavy rock. Ça prend, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais ça me prend quelqu'un qui a l'air fâché dans mes oreilles.
Ah oui, d'accord.
Mais je sais que c'est pas un goût que tout le monde partage. Fait que je me suis dit, OK, faut que je trouve un groupe que j'aime bien, mais avec une chanson un peu plus douce. Parce qu'il faut savoir que pour chanter ce que ces hommes et ces femmes-là chantent, ça prend une méchante bonne voix et des très bons musiciens.
Mm-hmm.
Et à un moment donné, cette chanson-là, je suis tombé dessus par hasard et j'ai juste adoré l'arrangement, comment ils parlent, la chanson en elle-même, qui est une très belle chanson de Simon & Garfunkel en même temps.
Oui.
Et je l'ai juste aimé et ça a resté. Et je trouve ça très ironique, parce que j'aime les ironies dans la vie, que c'est une de mes chansons préférées qui s'appelle « The Sound of Silence » quand je suis aussi volubile.
Oh, excellent! J'aime bien, j'aime ton interprétation.
Et c'est ça, les ironies de la vie, c'est une des choses qui me fait le plus sourire, et celle-là, je trouvais que ça fitait bien pour l'émission.
Et une ironie de la vie, à quoi tu penses pour nous donner un exemple, par exemple?
Une ironie de la vie, oh, c'est une bonne question, ça! Ben, en fait, je me suis toujours dit qu'une des ironies qui pourrait arriver dans ma vie, ça fait que si un jour j'ai un enfant, ça serait vraiment drôle qu'il naisse avec un doigt de plus.
Oh, d'accord.
Donc... Je trouve ça tellement drôle que ça arrive avec je veux dire, j'ai un enfant qui a un morceau de plus. Pourquoi? Ça serait une des plus drôles ironies de la vie.
Mais là, donc, on parle d'ironie. L'humour, Maxime, ça fait partie de toi aussi à 100%.
À 100%, c'est une des façons c'est un des outils que j'ai utilisé quand j'étais plus jeune, et encore aujourd'hui, pour, un, se faire accepter, mais deux, démontrer que ma situation n'est pas... j'en suis pas victime, là. C'est pas un drame, ma situation. C'est pas grand-chose quand on s'y arrête. Si on la découpe, oui, je fais mes choses différemment, mais au final, je fais la même chose que tout le monde. Je fais la même vie que tout le monde.
Oui.
J'ai le malheur de payer des impôts comme tout le monde, de contribuer à la société de la même façon comme tout le monde.
Mm-hmm. Et quand tu parles de faire les choses du quotidien, je veux absolument que tu nous parles un peu de concrètement, là. Par exemple, le fait de s'habiller. Nous, on est habitués, bon, OK, je dis nous, moi, il manque aussi une main, là, mais s'habiller avec deux bras, deux jambes, c'est une chose. Mais comment tu fais pour t'habiller quand tu as seulement deux doigts?
Bon, en fait, il existe des outils. Il existe aussi l'inventivité. La nécessité est la mère de l'invention. Il faut toujours se rappeler ça. Dans mon cas, pour m'habiller, les choses se font relativement simples. Si je peux me mettre des bas, je vais prendre mes pieds. Pour me mettre une chemise, je vais juste en enfiler par-dessus la tête comme un T-shirt. Les pantalons, par exemple, mes bras ne se rendent pas au niveau du nombril, ils ne se rendent pas plus bas. Attacher et zipper le pantalon, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez difficile lorsqu'on ne peut pas travailler près de soi. Et moi, à un moment donné, à force de chercher, d'avoir le besoin de m'habiller, évidemment, j'ai commencé à mettre mes pantalons avec un bâton d'habillage. Donc, c'est un bâton qui est juste assez long pour me permettre d'aller les prendre lorsqu'ils sont à mes chevilles.
Okay.
Et je les monte lorsqu'ils sont attachés. Ils sont déjà attachés. Et je les monte tels quels. C'est pas super confortable pendant que je les monte, mais écoute, ils sont montés. Ils sont assez bien montés. Ils tiennent très bien. Ça m'a permis donc de les monter, mais attachés. Et quand je dis que je fais les mêmes choses, mais un peu différemment, c'en est un exemple. Je monte mes pantalons, mais ils sont déjà attachés.
Mais c'est clairement...
Le résultat est le même.
Oui, c'est vrai, mais c'est beau de le voir comme ça parce que ça reste quand même un défi de logistique à la base. Tu m'expliquais aussi que, par exemple, l'été pour toi, c'est important d'avoir l'air climatisé.
Oui, parce que c'est facile à imaginer, même pour les auditeurs.
Oui.
Lorsqu'on a la peau humide, les vêtements montent moins.
Mm-hmm.
Lorsqu'il fait 40 degrés dehors, si j'avais pas la chance d'avoir un air climatisé à la maison, quand tu as la peau humide, ça monte moins. Ça monte moins, tu forces plus, t'as chaud, et ça finit par être une boucle infernale.
Et voilà.
C'est vraiment difficile de s'habiller. C'est comme essayer de monter un costume de bain lorsqu'on est mouillé.
Ben voilà, c'est ça. Tout le monde sait
c'est la
quoi.
Même chose. Donc oui, logistiquement, il y a toujours des petits défis, mais ça fait partie, tu le sais aussi comme moi, ça fait partie de notre défi. Hein.
Oui, clairement.
Ça fait partie de notre défi. Et d'une journée à l'autre, ça peut être un défi différemment. Ça peut être que tu t'es fait mal à quelque part, ça peut être n'importe quoi. Donc, il faut toujours garder cette agilité-là dans notre tête de toujours être capable de s'en sortir.
Oui.
Mais quand on est né comme ça, c'est facile pour moi d'essayer de trouver une nouvelle solution. J'ai toujours évolué de cette façon-là.
Mmh.
C'est pas nouveau pour moi.
Non. Donc, c'est un plus qu'on a malgré tout.
Oui, je le pense, oui, parce que j'ai toujours dit la phrase suivante, moi, là-dessus, j'ai jamais eu à réapprendre quoi que ce soit.
Ah oui.
J'ai juste eu à apprendre. Fait que oui, il y a des choses qui m'ont demandé plus de temps, mais au final... C'est le but qui est important, c'est pas le chemin.
Exact. Puis bon, c'est la même chose, on parle d'habillement, c'est la même chose pour la cuisine, la nourriture. Toi, c'est plus facile pour toi d'utiliser le four versus de faire cuire quelque chose dans une poêle sur la plaque de cuisson.
Ben, c'est ça, c'est qu'admettons, sur une plaque de cuisson, le danger pour moi, c'est un, de me brûler le visage.
Oui.
Puis deuxièmement, ben, veux pas, je suis vraiment proche de ce qui cuit, fait que c'est pas super prudent de le faire, admettons, de faire cuire quelque chose dans la poêle, mais de mettre quelque chose dans le four, c'est absolument pas un problème, surtout que, dans mon cas, j'ai un four de comptoir qui me permet de monter la température très haut, fait avec ça, c'est à ma hauteur, et j'ai juste à mettre les choses dedans et les ressortir après. C'est très, très simple pour moi de faire ça, mais on s'entend que c'est quand même pas la même chose qu'un bon filet de porc dans la poêle. Non, ça goûte pas pareil.
Je comprends. Mais
il faut se nourrir.
Et voilà. Il y a toujours, on finit toujours par trouver une solution à tous nos besoins.
Toujours, toujours, toujours. Si c'est assez important, on va trouver une solution.
Exactement. Je t'amène ailleurs, Maxime, parce que je le dis souvent, le temps va tellement vite, mais tu as tellement de choses intéressantes à nous raconter. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'on souvent, il y a, quand on est, oui, différent et que notre handicap est très voyant, ben les gens, oui, vont réagir de façon un petit peu plus directe avec nous. Et toi, ça t'est arrivé quand même, comme pour beaucoup de personnes, à l'épicerie, ça t'est déjà arrivé que les gens aient tendance à rentrer un peu dans ta bulle?
Oui, ça arrive et... Ça arrive parce que, un, les gens sont bien intentionnés.
Oui.
Ils font pas ça pour mal faire. Mm. Souvent, quand on dit, mettons, rentrer dans notre bulle, ça va être quelqu'un qui va... Admettons qu'on arrive à l'épicerie et que moi, j'ai quelque chose sur une tablette qui est trop haut pour moi. On s'entend que c'est difficile de le prendre.
Oui.
Donc, je vais vouloir demander de l'aide à quelqu'un. Mais il y a des gens qui vont arriver et qui vont t'offrir de l'aide. Et, parenthèse, à tous ceux qui n'ont pas un handicap, moi, je leur dis ceci. Offrez-la l'aide. Et si la personne qui a un handicap, l'autre bout, est insultée, dites-vous que c'est parce qu'elle a un problème avec l'acceptation de son handicap. Mais, si la personne vous dit « Non, j'en ai pas de besoin », s'il vous plaît, ne pas insister. C'est là où ça peut devenir un peu rentrer dans la bulle. Si je dis non à quelqu'un, ça veut dire que dans ma tête, je sais que je peux le faire.
Voilà.
Ben, il ne faut pas insister parce que là, à ce moment-là, ça devient transgresser une limite. Mais offrir de l'aide, je ne serai jamais fâché parce qu'on offre de l'aide. Je veux dire, quelqu'un qui offre de l'aide, un humain qui offre de l'aide à un autre humain,
mais oui, il n'y a rien de plus beau.
C'est pas pour mal faire. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau et naturel.
Exactement.
C'est normal. Donc, moi, j'ai toujours eu un problème avec ceux qui réagissaient fortement lorsqu'on leur offrait de l'aide. Non, il n'y a pas de problème. Et si j'en ai besoin, je vais vous le demander. Et quand j'étais plus jeune, et j'imagine que tu vas te reconnaître dans ce que je dis, mais quand j'étais plus jeune, moi, j'étais orgueilleux.
Mm-hmm.
Et systématiquement à l'épicerie, quand on me demandait si j'avais besoin d'aide, je disais non.
Oui.
Pour finalement avoir besoin d'aller voir la personne et de dire excusez, je vous ai dit non, mais j'en ai vraiment besoin finalement. À 36 ans, je saute une étape. Si la personne m'offre de l'aide, 9 fois sur 2, je vais faire. Sais-tu quoi, Max? C'est plus simple de lui demander pourquoi pas. Elle est à côté et elle te l'a offert.
C'est beau, c'est très beau.
L'orgueil, là.
Oui, voilà. On apprend à tout le monde hein, quand on vieillit, handicap ou pas, l'orgueil, oui, ça finit par changer de place ou changer d'endroit.
Exactement. On finit par cibler là où c'est utile.
Voilà. Et Maxime, il nous reste, bon, dans les quelques minutes à peine, je veux absolument les prendre avec toi pour parler d'une de tes plus grandes passions. J'ai envie que tu nous fasses rêver et que tu viennes titiller nos papilles gustatives. Quelle est ta grande passion?
Je suis un passionné de whisky, spécifiquement de scotch.
Aha.
Et comme je fais rien à moitié, j'en suis un vrai bon passionné. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. D'ailleurs, lorsque la pandémie sera terminée, tu les invites à venir en prendre un verre. On s'en est déjà parlé d'ailleurs.
Oui,
donc, il va juste falloir s'en rappeler. Là. Il y a comme une petite pandémie qui nous en empêche en ce moment.
Oui, tout à fait.
Mais je suis un amateur de whisky. J'ai toujours aimé ça. Ça vient du paternel encore. Mon père m'a fait goûter à ça quand j'étais plus jeune et l'intérêt est venu de là. Et je te parle de ça et je regarde ma bibliothèque en même temps avec mes bouteilles. C'est une chose que j'ai toujours aimée parce que l'art de déguster quelque chose, c'est l'art de prendre le temps.
Ah oui.
On prend un temps d'arrêt, on goûte, on tout arrête pendant un petit moment.
Mm.
Puis c'est comme un... Lorsque tu commences à déguster, c'est que ça n'a plus de fin. Le café va goûter différemment quand tu vas commencer à t'arrêter au goût. La nourriture va commencer à goûter différemment parce que tu vas t'arrêter à ce que ça goûte. Tu vas te donner l'autorisation de prendre un peu le temps de goûter à ce que tu manges ou à ce que tu bois ou à le regarder, à le sentir. C'est ça que j'aime là-dedans. Et ce que j'aime là-dedans aussi, c'est le côté tu ne veux pas te tromper. Les gens sont souvent intimidés. Si on se prend une bouteille de vin, puis on regarde en arrière, puis on va lire goût de mûr, ou de framboise, ou de cuir, et les gens, quand, lorsqu'ils goûtent souvent, ils vont essayer d'avoir les mêmes réponses
que les autres.
Mais le goût et l'odorat, c'est des sens intimes. C'est notre interprétation, c'est ce que nous on goûte, ce que nous on sent. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Dans un vin, lorsqu'ils vont dire un goût de cuir, ou dans un whisky, lorsqu'ils vont dire un goût de fumée, ils n'ont pas rajouté de fumée, ou ils n'ont pas rajouté de cuir, ou de framboise, ou de ce que tu veux là-dedans. Ce qui arrive, c'est que ces molécules-là, notre cerveau va faire... Ça me dit quelque chose, ça. Ces sens-là sont très reliés à la mémoire et notre cerveau va interpréter ça différemment.
Maxime, avec tout ce que tu viens de me dire, là, je peux dire une chose, c'est que j'accepte ton invitation à faire une dégustation de whisky volontiers. Merci infiniment, Maxime, pour tous ces beaux partages. À la prochaine.
Merci à toi, Camille. À la prochaine.
Bye-bye. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être avec nous. Je vous invite, comme toujours, à aller sur le site canalm.vusezvoix.com pour écouter les émissions. Merci à ma charmante équipe, Mathieu Tessier à la mise en ondes, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien Laliberté à l'habillage sonore. Et je vous dis à la semaine prochaine.